IDFM Radio, par nous, pour nous. Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, la plus belle des radios d'Île-de-France dans le Val d'Oise, que vous pouvez écouter en FM sur 98.00, Web Radio 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et grâce à notre appli dans le monde entier. Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Merci d'être au rendez-vous de l'économie en direct sur IDFM Radio. Alors, ils sont chefs d'entreprise, chacun dans un secteur différent, formation professionnelle et de l'insertion des jeunes aux demandeurs d'emploi, entreprise générale de bâtiment, conseil en ressources humaines, diversité et insertion. Et pourtant, un point commun les réunit, car chacun est engagé dans le lancement du fonds de mécénat territorial pour l'égalité des chances. Aujourd'hui, vendredi 16 mai 2025, découvrons ensemble leurs activités respectives et pourquoi ils ont choisi de soutenir cette initiative bienveillante. Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Hakim Kamouche. Bonjour Hakim.
Bonjour Jacqueline.
Je suis tout à fait ravie de vous accueillir enfin sur ce plateau et puis merci d'avoir accepté mon invitation.
Avec plaisir.
Alors, Hakim, vous êtes chef de projet innovation sociale de la DETS 95, direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, fervent défenseur de l'égalité des chances, hein, on peut le dire. Vous nous raconterez comment vous œuvrez pour faire la promotion de la formation professionnelle et de l'insertion des jeunes ou des demandeurs d'emploi. Et j'ajoute que vous êtes chevalier de l'Ordre national du mérite, donc une prestigieuse distinction. Félicitations pour cette belle reconnaissance venue ainsi couronner votre engagement remarquable au service de l'emploi.
Merci, merci beaucoup.
Et avec nous ce matin, bien sûr, pour tout nous dire sur ce fonds de mécénat et son lancement officiel qui a lieu il y a quelques jours. À vos côtés, alors non, pas à nos côtés, malheureusement, nous aurions dû accueillir Rachida Ara, PDG de Griffon Protection. Malheureusement, la maman de Rachida a eu un accident de voiture et elle ne peut pas être avec nous ce matin. J'espère que j'aurai le plaisir de la recevoir une autre fois. Mais bien avec nous, Saïd Skilic, PDG du groupe KLC. Bonjour Saïd.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Votre groupe, c'est un groupe pluridisciplinaire spécialisé dans les métiers du bâtiment.
C'est ça.
Enfin, du BTP. Et à vos côtés, Julien Doza, directeur chez Domino RH. Bonjour Julien.
Bonjour Jacqueline.
Bienvenue et merci de votre présence en direct chez IDFM Radio dans l'économie en direct.
En Île-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Alors, cher Hakim, il y a quelques jours, à Gonesse, a eu lieu ce lancement du fonds de mécénat territorial pour l'égalité des chances. Peut-être rappeler pour nos auditrices et auditeurs ce qu'est un fonds de mécénat territorial.
Oui, bien sûr, Jacqueline. Alors, si vous me permettez, quelques éléments de contexte avant de rentrer dans la présentation du Fonds national territorial pour l'égalité des chances, hein, qui est une première nationale, faut le rappeler, c'est important. Ce Fonds de mécénat territorial pour l'égalité des chances s'intègre dans une stratégie départementale pour l'égalité des chances que la DETS a impulsée depuis 8 ans maintenant, on rentre dans la 8e année, donc en 2018. Cette stratégie départementale s'appuie sur un réseau de partenaires publics-privés. Hein, c'est essentiel quand on parle d'égalité des chances parce que l'égalité des chances renvoie à un ensemble, une approche pluridisciplinaire, des thématiques qui sont portées par plusieurs partenaires. Donc, la nécessité de pouvoir s'appuyer pour être efficace sur un panel d'experts publics-privés et bien évidemment sur pouvoir mobiliser, s'appuyer sur l'engagement des entreprises du territoire. Alors, cette stratégie, on fait preuve de beaucoup de méthodes et d'innovations dans la stratégie parce que, comme je l'ai rappelé, on s'appuie sur un réseau de partenaires publics-privés, des entreprises engagées, et puis elle fait preuve aussi d'innovation. La stratégie départementale est structurée sur trois leviers, hein, on va dire. Un levier outillage RH, oui. Parce qu'il est important de pouvoir aussi accompagner, d'outiller les entreprises lorsqu'elles prennent des engagements en matière d'égalité des chances, lorsqu'elles vont recruter, lorsqu'elles vont former, lorsqu'elles vont se contractualiser des achats responsables. Ça nécessite de la méthode et ça nécessite aussi des outils. Donc des outils qui sont co-construits avec les partenaires publics-privés du territoire. C'est aussi le deuxième levier, c'est aussi la mise en valeur des pratiques des entreprises. Hein, la mise en valeur, la mise en lumière des pratiques avec les trophées de l'égalité des chances. Donc là, on va lancer la 5e édition des trophées de l'égalité des chances. Et sur les 4 premières éditions, on a récompensé 25 entreprises au total, de toute taille et de tout secteur d'activité. J'insiste, hein, parce que l'engagement des entreprises, c'est pas le monopole que des grands comptes, que des grands groupes.
Hein,
c'est toute taille d'entreprise,
oui,
et tout secteur d'activité.
C'est important d'avoir un spectre très large.
Absolument. Nous avons des artisans. Enfin, vraiment, il y a une diversité d'engagement et une diversité de profils d'entreprise qui est fort intéressant.
Vous pourriez même avoir une radio.
Absolument, tout à fait, ouais, tout à fait, Jacqueline. Et enfin, c'est aussi ce qui est important aussi dans la mobilisation des entreprises, c'est de pouvoir leur permettre une diversité d'engagements possibles. Donc, on leur donne l'opportunité de pouvoir participer à différents événements. Ça se traduit notamment par la signature. L'engagement se traduit, se formalise par la signature de charte pour l'égalité des chances.
Bien sûr.
On est depuis 2018 à la 600e, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas 600e charte signée. Hein, ce qui prouve que, voilà, sur le département du Val-d'Oise, il y a une dynamique vraiment extrêmement intéressante.
600e, c'est-à-dire que chaque entreprise signe une charte,
absolument,
c'est ça?
Absolument, oui, tout à fait. Oui, comme chaque entreprise est singulière, mm-hmm. hein, donc elle signe oui. une charte qui porte les engagements qu'elle souhaite investir.
Qui est personnalisée, en fait. Finalement,
absolument,
par rapport à son
à
activité.
Absolument, oui. tout à fait. Et puis par rapport à ce, aux engagements qu'elle souhaite porter.
Bien sûr. Hein,
voilà,
oui.
Donc 600. Il y a, vous connaissez le principe des journées européennes du patrimoine?
Oui.
Voilà, donc nous, depuis 7 ans maintenant, on organise la journée de valorisation du patrimoine économique et du capital humain. Donc là, la 7e édition aura lieu chez KLC, hein, oui. justement, chez Saïd. Voilà, avec comme thématique, cette année particulièrement, on est la veille, on sera la veille, le 19 juin, on sera la veille de la journée mondiale des réfugiés. Donc là, on va cibler cette 7e édition de notre journée du patrimoine ou boîte à boîte. C'est sur l'insertion des primo-arrivants, en fait, hein, des réfugiés. Donc
oui.
on va organiser
oui.
un job dating. Et donc, on a le plaisir, et Saïd nous fait l'honneur de nous accueillir pour cette 7e édition. Au total, on a plus de 350 entreprises hein, qui ont participé à ces aux premières éditions. Hein. Donc, c'est une journée dédiée aux entreprises qui permet de les mettre en lumière.
Oui.
Donc, l'entreprise, elle dévoile un petit peu son activité, ce qu'elle fait, et puis elle peut recruter en même temps. Enfin, il y a toute une diversité comme ça de sujets, de thématiques.
Oui, c'est l'occasion justement de découvrir tout un panel d'entreprises diverses.
Absolument, tout à fait, tout à fait. Et puis, le même principe que les journées européennes du patrimoine, on fait son marché.
Oui.
Hein, on visite là, après on va là, oui. et puis on se balade oui. sur le département et on découvre hein, des pépites. Hein. On découvre des pépites. Hein.
J'imagine,
c'est vraiment,
oui.
Ah
j'imagine.
Oui, absolument, tout à fait. Et encore aujourd'hui, on découvre des entreprises qu'on ne connaissait pas, quoi. Donc, grâce à ça, quoi. C'est comme KLC.
Alors, pour ces journées du patrimoine hein, des entreprises, ce sont les entreprises qui s'inscrivent, c'est-à-dire vous lancez une information et c'est elles qui viennent s'inscrire.
Absolument, tout à fait. On est sur une démarche volontaire.
Oui.
Donc, l'entreprise qui souhaite se mettre en visibilité, elle participe, elle a l'opportunité de se mettre en visibilité grâce à cette journée.
Et j'imagine que d'année en année, le nombre grossit.
Oui,
des
absolument.
Participants.
Alors, il y a eu une année un petit peu particulière post-Covid. Hein, c'était un petit peu compliqué. Rapatrier ses collaborateurs.
Ouais.
Collaborateurs qui étaient en distanciel, là, en télétravail,
oui, en fait.
Oui. Ouais, voilà. Donc, il y a eu une année un petit peu, même deux années un petit peu, voilà. Mais bon, la dynamique, elle est là. Et c'est aussi, au Romain Taboite, c'est aussi une dynamique unique en France.
Ah oui.
Hein, on dit souvent que le Val d'Oise est un département de réseau et d'innovation, et on le prouve, hein, à chaque instant, par nos actions, par tout ce qu'on fait, quoi. Et voilà. Et puis, il y a aussi une autre innovation, hein, depuis, on va lancer la 5e édition du mois de l'égalité des chances.
Oui.
Hein, donc c'est un mois qui est aujourd'hui qui est bien ancré dans le paysage des initiatives. Hein, sur les 4 premières éditions, on a eu 15 000 participants.
Oh là là, formidable.
Énorme. De toutes les générations, de toutes les horizons. Hein, donc le principe du mois de l'égalité des chances, c'est aller à la rencontre des publics.
Oui.
Hein, voilà.
Oui.
Et sur les 4 premières éditions, on a eu 600 partenaires publics mobilisés et puis 350 entreprises investies,
à nouveau,
participantes.
Ouais.
Voilà.
Oui, bravo.
Donc c'est
bravo
voilà.
Je crois, je sais que c'est pour ça que je l'ai dit un peu en présentation. Vous ménagez pas votre peine hein, pour avoir tous ces résultats.
Oui, mais oui, absolument. Mais c'est en même temps c'est fluide.
Oui, oui.
Chacun y trouve sens. Et les entreprises sont fiers de participer.
Oui, et puis ça vous porte quelque part de voir que ça fonctionne bien.
Bien sûr, voilà. Ça fonctionne bien. Et donc, ça prouve que ça répond
et
à...
Et qu'il y a une vraie demande.
Absolument, tout à fait. Et la thématique de l'égalité des chances, elle est pleinement inscrite dans le panorama aujourd'hui. On en parle.
Complètement.
On en parle. Et c'est important d'en parler.
Oui.
Aujourd'hui,
c'est
peut-être
sûr.
Encore plus qu'hier. Quoi.
Enfin, ah oui, voilà, non, mais c'est vraiment un thème qu'il faut pas oublier. Donc, alors... Dans cette perspective de l'égalité des chances, il y a donc ce fameux fonds de mécénat territorial. Rappelez-nous ce qu'est déjà peut-être un fonds de mécénat, tout simplement.
Oui,
parce que tout le monde ne le sait pas.
Tout à fait, tout à fait. En quelques mots, je vous ai présenté rapidement l'ensemble des possibles.
Oui,
en termes
oui.
De, voilà. Et cet ensemble possible, c'est aussi pouvoir favoriser une diversité d'engagements possibles des entreprises. Voilà. Donc, je vous le disais en introduction, ça se traduit notamment par la signature de chartes. Mais on a souhaité aller plus loin dans l'engagement des entreprises. Voilà, d'où ce fonds de mécénat territorial pour l'égalité des chances. Donc, demander aux entreprises de pouvoir contribuer financièrement. Mmh. Hein, voilà le principe du fonds de mécénat, c'est ça. Hein, c'est contribuer financièrement. Donc, nous permettre de pouvoir, au travers du fonds, collecter de l'argent, hein, pour dire les choses clairement,
oui.
Pour pouvoir ensuite aller soutenir des actions d'initiatives d'intérêt général, à forte utilité sociale sur les territoires.
Très bien, voilà. Très bien. Et donc c'est il y a un palier minimum de participation.
On a des artisans qui participent.
Il y a une grande liberté.
Absolument, ouais. Tout à fait. Une grande liberté, mais en même temps, une responsabilité.
Bien sûr.
Après, l'entreprise prend sa responsabilité par rapport à sa contribution. Mais au-delà de la dimension financière, c'est aussi une dimension sociétale.
Bien sûr.
On est vraiment, quand on contribue à ce fonds de mécénat, on devient vraiment, même si on l'est déjà, mais on l'est encore plus fortement. On est vraiment entreprise engagée et puis on peut s'en prévaloir.
On peut l'affirmer,
le crier haut et fort. C'est ça qui est important.
Je comprends. Alors donc, j'allais vous demander ce qui a motivé la création du fonds de mécénat, mais finalement, vous nous l'avez expliqué. Vous avez des objectifs quand même au niveau des sommes à recueillir ou vous laissez les choses se faire naturellement?
Là, on l'a lancé, donc c'est tout neuf.
Oui.
On va commencer à vraiment avoir une campagne de communication importante. Chaque entreprise mécène devient ambassadrice. C'est important, aussi, dans la communication, chaque entreprise doit aussi devenir ambassadeur et ambassadrice, et puis
à son tour, aller chercher d'autres mécènes.
Merci Jacqueline, absolument, tout à fait. J'en profite pour citer donc les entreprises mécènes. Les premières, les pionnières, c'est important, les pionniers dans une aventure.
C'est très important.
Voilà, c'est même essentiel, donc... Saïd, le président KLC. Directeur général de KLC.
Merci.
Domino RH, Julien.
Oui.
Oui, Julien confirme. Le groupe Manutan.
Oui.
Qui nous a reçus pour le lancement du fonds. Donc une très très belle entreprise.
Une
belle entreprise, absolument. On n'a que des belles entreprises dans le Val-d'Oise. On a beaucoup de belles
pépites.
C'est vrai. Magnum Duchaux, le groupe Magnum Duchaux Novelty.
D'accord.
Ils sont dans l'événementiel de la communication. Vous savez que Magnum et le groupe a obtenu l'inauguration des Jeux Olympiques 2024.
Non, je ne savais pas.
Ce sont des très 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 belles entreprises. AC Formation, c'est une auto-école qui forme au permis poids lourd. Donc Kevin, une belle personne engagée.
Oui.
Griffon Protection, donc vous avez cité Madame Arabe tout à l'heure. L'association des propriétaires industriels de Sarcelles-Villebelle.
Georges.
Voilà, absolument, que vous connaissez. Et Madame Bambara, petite entreprise artisanale, mais pleine de valeur, engagée, à bord nettoyage.
D'accord.
Voilà, ce sont les premières entreprises pionnières du fonds.
Bravo, bravo pour cette belle réunion d'entreprises comme ça. Est-ce que vous avez, donc on a bien compris que c'était pour favoriser toute la diversité de l'engagement, c'était un projet sociétal. Est-ce que vous avez déjà, comme ça, des projets qui sont éligibles par rapport à ce financement?
Alors, ce qu'on a souhaité faire avec l'objectif qu'on se donne avec ce fonds de mécénat territorial pour l'égalité des chances, c'est vraiment d'investir la question de l'innovation sociale dans les thématiques liées à l'égalité des chances.
Oui.
Lorsque l'on recrute, lorsque l'on forme, lorsque l'on accompagne, lorsque... Apporter vraiment une plus-value, ça veut dire que le fonds n'a pas pour vocation à prendre en charge 100% le financement de l'action.
Oui,
c'est vraiment l'effet de levier, c'est du cofinancement.
C'est ça.
Voilà, c'est de pouvoir permettre une action de se réaliser qui ne pourrait pas se réaliser sans la participation du fonds de mécénat. Voyez. Donc dans les thématiques, on a des actions de lutte contre les violences faites aux femmes. On a un programme qui s'appelle Pépite. Vous savez que sur le département du Val d'Oise, on a de mémoire 70-80, je crois, pupilles de l'État.
Oui.
Hein? Et le sujet des pupilles de l'État, la priorité pour nous, c'est l'accompagnement à l'insertion professionnelle. Parce qu'à partir du 18 ans, vous savez qu'ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Et quand on regarde un petit peu les résultats, les études qui sont faites, leur vie, elle est vraiment très très compliquée après 18 ans. Donc, les accompagner à l'insertion professionnelle, en mobilisant des parrains qui vont les conseiller, les guider, élargir leurs horizons professionnels. L'entrepreneuriat aussi dans les quartiers. Donc voilà, on a comme ça un ensemble de thématiques sur lesquelles on va pouvoir accompagner et soutenir.
Ça veut dire aussi que parce que ces projets, donc les entreprises mécènes vont contribuer financièrement, elles sont ambassadrices, hein, on a bien compris, pour aller trouver d'autres mécènes. Après, toute la partie active d'aller de venir en aide à ces pupilles de l'État, aux violences faites aux femmes, c'est la DETS qui s'en occupe. Enfin, c'est qui va gérer ce genre d'action?
Alors non, on met en place, on est sur une démarche collective, hein, je l'ai rappelé, on s'appuie sur un réseau, un panel de partenaires publics-privés, donc il va y avoir un comité de pilotage, hein, avec une représentation de toutes ces expertises, collectivités, associations, partenaires sociaux, chambres consulaires.
Très bien.
C'est ensemble qu'on va déterminer les critères de sélection et c'est ensemble qu'on va les sélectionner. Actions, absolument.
Pour pouvoir ne laisser personne sur le bord de la route.
Absolument,
en fait.
Tout à fait. Ouais, tout en rendant compte aux entreprises mécènes en disant voilà, grâce à vous, voilà ce que la manière dont on a utilisé, dont on a utilisé les fonds et voilà.
Donc des projets qui seront évalués par cet ensemble par ce comité de pilotage.
Tout à fait. D'où l'idée de ce. Je parlais d'innovation sociale, mais au travers du fonds, ce que l'on souhaite mettre en place, c'est un laboratoire d'innovation sociale.
Oui.
Vraiment de pouvoir promouvoir de l'expérimentation, des actions qui sont innovantes, qu'on va pouvoir capitaliser et ensuite innover. Et ensuite essaimer.
Oui, je comprends. Hakim Camouche, l'interview n'est pas terminée. Je vous propose qu'on fasse une courte pause et on reprend cette interview très intéressante.
Bien sûr,
à tout de suite.
IDFM Radio, le média valdoisien.
C'est l'économie en direct et ce matin nous parlons d'engagement et de fonds de mécénat avec à mes côtés Hakim Camouche, direction chef de l'innovation, de projet de l'innovation sociale de la DETS, Saïd Skilik, Saïd, PDG du groupe KLC, et Julien Doza, directeur chez Domino RH. Hakim, on sent toute votre passion à parler de ce projet, mais bon, je crois que c'est, de toute façon, vous êtes fait comme ça, hein, de passion. Depuis combien de temps vous réfléchissez à ce projet?
Bah écoutez, ça va faire à peu près 3 ans que l'idée m'est venue. 3 ans pour pouvoir convaincre, pour en mesurer la faisabilité. Hein, c'est aussi important. On a une idée, mais il faut pouvoir,
qu'elle soit réalisable.
Faut qu'elle soit réalisable, absolument. Et donc pour ça, on s'entoure, on échange, on partage, on est conseillé aussi. Hein, et voilà. Et donc. Il y a quelques jours, ça a été pour nous le grand jour du lancement. Le grand jour du lancement. On est fiers, collectivement fiers.
Vous avez de quoi être fiers. Concernant quels critères vont être utilisés pour sélectionner les projets qui recevront un financement?
Alors le premier critère c'est la faisabilité. On va mesurer la faisabilité.
Oui.
Hein, donc c'est pas tout venant, hein, parce que le principe de ce laboratoire d'innovation sociale c'est vraiment de pouvoir impulser des actions qui naturellement ne pourraient pas avoir lieu sans ce coup de pouce. Hein, sans ce coup de pouce. Et qui dit innovation dit expérimentation.
Bien sûr.
Évaluation. Et ensuite pouvoir diffuser et s'aimer, hein, les bonnes pratiques, hein, pour que ce soit repris, quoi. C'est le principe d'un laboratoire d'innovation sociale.
Oui, mais alors la faisabilité, d'accord, mais il va falloir quand même que les projets à financer soient présentés et puis fassent l'objet d'une petite étude avant, j'imagine.
Oui, bien sûr, oui. Tout à fait. La manière dont ils vont être choisis, on va fonctionner classiquement sous forme d'appel à projet.
Oui.
Hein, sous forme d'appel à projet. Donc, chacun aura loisir d'y répondre. Hein,
oui, c'est
voilà.
Ça.
Et puis il y aura, comme je vous le disais tout à l'heure, il y aura un comité technique, un comité de sélection, hein, et collectivement on va voir ce qui est opportun de soutenir ou pas, quoi. Voilà.
Non, c'est, Et vous avez une idée des sommes qui vont être engagées auprès des, peut-être pas encore
Non, pas encore.
Oui,
non,
c'est, trop,
encore.
C'est trop tôt.
C'est trop tôt,
ouais.
C'est trop tôt. On pourra faire un premier bilan en fin d'année.
Oui, hein, très bien.
Fin d'année, voilà. Mmh. C'est, on va laisser les choses se faire tranquillement. Et ensuite, on en mesurera et on ajustera s'il le faut.
C'est ça, parce que voilà, il va falloir mesurer le succès, l'impact des initiatives hein, que vous allez lancer.
Absolument, et on a une lourde responsabilité, hein, d'abord financière, au travers de l'engagement des entreprises. Hein. Lorsque l'entreprise débloque des fonds, il faut être à la hauteur de.
Bien
sinon,
sûr.
Il faut rendre compte. Hein, je veux dire, ce qui est naturel, ce qui est normal, quoi.
Complètement. Donc, complètement.
Et il en va aussi de la crédibilité du fonds.
Oui.
Et de la pérennité.
Absolument.
Quand je dis crédibilité, c'est pérennité. Mmh. Parce que ce qu'on souhaite, nous, c'est pas que les entreprises financent, apportent un financement que ce soit one shot. Hein, c'est.
Oui. Oui,
pour que ce soit pérenne, pour que ça ait
sûr,
du sens.
Faut qu'il y ait une... Oui, que vous les teniez informés.
Absolument.
Et puis voilà, que ça
crée un club, hein,
oui,
un club des entreprises mécènes. On va faire vivre ce club des entreprises mécènes.
Très voilà. Bien. Quand on crée comme ça un fonds de mécénat, ça fait 3 ans que vous y réfléchissez, il y a forcément des défis auxquels vous avez été confrontés. Quels sont-ils?
Les défis, je dirais que le premier défi auquel j'ai été confronté, c'est quand j'en ai parlé la toute première fois, on m'a regardé avec des gros yeux comme ça. Bon, voilà, on s'est dit, mais t'es sûr, Hakim, c'était pas, enfin, j'ai pas senti
un enthousiasme.
Un enthousiasme parce que ça paraissait tellement demander aux entreprises de donner de l'argent pour soutenir l'égalité. Déjà, une entreprise soutenir l'égalité des chances. Pour beaucoup d'entreprises, c'est pas naturel en soi. Je veux dire, là, on a la chance d'avoir des belles entreprises et qui tout de suite, lorsque j'en ai parlé à Saïd, lorsque j'en ai parlé à Julien et à toutes les entreprises, ça tombait sous le sens en fait. Hein. J'ai pas eu besoin de les convaincre. Hein. Je me souviens, j'étais reçu par Saïd dans son entreprise avec Mohamed Mezraoui, le directeur de créative. Hein. C'est grâce à Mohamed que j'ai connu Saïd. Hein, et je parle, et Saïd me dit, bon, Hakim, c'est bon, on a compris, hein, tu sais, moi je suis convaincu. Hein, tu te souviens, Saïd?
Ouais, exactement. Ouais.
C'était incroyable.
Oui, ça a dû être. Ça a dû vous faire du bien de recevoir cet accord tout de suite.
Ah oui, non, mais hein, je le disais.
Déjà, c'est la preuve que c'est valide.
Absolument.
Et puis que ça a un avenir.
Absolument, c'est un avenir, on le souhaite. Et c'est le premier fonds de mécénat territorial de l'égalité des chances de France.
D'accord. Hein? Oui, c'est ce que j'ai noté. J'ai noté que c'était unique.
Voilà, donc, et on le fait en partenariat avec le groupement d'intérêt public, le GIP.
Oui.
Les entreprises s'engagent. Hein, c'est aussi important de le rappeler, puisque le fonds va être porté par le GIP, les entreprises s'engagent.
D'accord.
Et nous, on va s'occuper de l'animation de ce fonds sur le territoire.
C'est ça. Vous allez faire toute la partie, on va dire, concrète c'est vous qui allez mettre la main à la pâte.
Absolument, tout à fait. Toute la communication, etc., de concert avec le GIP, bien évidemment. Mais voilà, c'est un GIP, c'est un fonds de mécénat territorial. Il est ancré, il a du sens parce qu'il est territorial.
Est-ce qu'il y a des initiatives spécifiques pour impliquer les communautés locales dans les projets qui vont être soutenus?
Oui, par exemple, on va. On parlait d'innovation.
Oui.
Là, on va lancer. Un label qui s'appelle Partenaires d'avenir.
Oui. Mmh.
Partenaires d'avenir. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, les entreprises sont hyper sollicitées pour accueillir des scolaires.
Mmh.
Hein. Il y a déjà les stages obligatoires de 3e. Il y a les stages de 2e depuis l'année dernière. Mmh. Avec la réforme des lycées professionnels, le temps passé en entreprise est beaucoup plus important pour les jeunes, pour les lycéens. Et donc, une sursollicitation pour les entreprises. Et donc, après échange avec quelques entreprises et des partenaires, on s'est dit qu'on allait lancer un label partenaire d'avenir pour pouvoir objectiver et valoriser la relation avec l'entreprise.
D'accord. Très
avec
bien.
Plusieurs niveaux, hein, bronze, argent, or. En fonction de l'application des entreprises. Donc voilà, vraiment quelque chose d'assez formidable et qui n'existe aussi nulle part. On aime bien faire de l'innovation dans le département.
Oui. C'est-à-dire que les relations école-entreprise existent déjà, puisque je sais que le MEDEF, ils ont leur journée, leur mois de l'entreprise, hein, où il y a comme ça ces échanges. Vous, est-ce que là où vous rajoutez, c'est des médailles, c'est-à-dire un classement?
C'est labellisé.
C'est ça.
C'est valoriser la relation, en fait. Et en l'objectivant. Alors, effectivement, il y a tout le réseau école-entreprise qui existe dans chacun des territoires.
Oui.
Et donc, nous, on souhaite labelliser ces démarches-là, en fait, avec ce label partenaire d'avenir.
Alors, vous parliez d'innovation. Il va falloir que le fonds s'adapte aux besoins changeants des territoires et puis des populations qu'il soutient. Vous y avez réfléchi ou ça va venir dans le temps?
Oui, non, ça va venir dans le temps. Le fond, c'est plus qu'un instrument financier.
C'est un outil, le fond.
Absolument, c'est un outil. C'est la prise de conscience partagée que l'épanouissement de chaque individu, de toutes les générations, de tous les horizons, est une richesse pour l'ensemble de notre territoire. Chaque individu en soi est une pépite. Voilà. Et tout le monde a le droit à sa chance. Voilà.
Bien sûr, bien sûr. En tout cas, c'est une bonne idée de faire que les premiers mécènes soient des ambassadeurs, hein, parce que ça va multiplier forcément les apports.
Hein.
On vous le souhaite aussi. Mmh. Mais sinon, vous continuez, en tout cas la dette, et puis peut-être des gens avec vous continuent à prospecter pour trouver des nouveaux mécènes.
On va créer un portail, on va créer une identité visuelle du fond. C'est aussi important. Et puis on va lancer toute une campagne de communication.
Bien sûr. Et jusqu'à présent, chaque fois que vous avez contacté des gens pour proposer ce mécénat, vous avez été bien accueillis.
Oui, toujours un écho hyper favorable, absolument, tout à fait.
Donc encore une fois, ça vous
rend... Ça motive, oui.
Oui, c'est ça, et puis ça vous savez que vous êtes dans la bonne direction.
Absolument, tout à fait.
Très bien.
Tout à fait.
Hakim, merci infiniment pour toutes ces précisions. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, à laquelle vous auriez aimé répondre? Alors moi, je vous en pose une. Si des entreprises nous entendent et veulent participer à ce mécénat, que doivent-elles faire?
Elles me contactent.
Oui.
Ou par votre intermédiaire.
Oui.
Absolument.
Oui.
Tout à fait. Et oui. Donc là, on compte sur les entreprises du département pour pouvoir intégrer ce club des mécènes, dans ce premier fonds de mécénat territorial pour l'égalité des chances.
Oui. Pour faire que ce fonds soit pérenne.
Absolument.
Le plus longtemps possible.
Absolument.
Merci infiniment et merci d'avoir pu réunir ce matin des chefs d'entreprise engagés pour ce fonds de mécénat qu'on va découvrir dans quelques minutes. À tout de suite.
J'ai traversé le ciel comme si j'étais ce héros qu'on décrit à sa mère avant d'être un ado. J'ai remué la terre pour comprendre les mots que chuchotait mon père en tenant ta photo. On remonte en montagne pour dépasser la brume, pour trouver cette étoile invisible dans la rue et sortir des nuages si gros qu'ils nous enfument, comme si c'était le brouillard qui nous gâchait la vue. Frapper fort à ma porte pour voir tomber la neige, mais toujours cette histoire quand je regarde en arrière, celle d'un gamin dans le noir, celle de ton petit frère, mais toujours cet espoir de te courir après, de venir tard le soir raconter mes secrets, mais toujours cette histoire quand je vois mon reflet, celle d'un gamin sans toi, celle de ton petit frère. J'ai chanté dans les salles pour raconter aux gens mes galères, mes victoires qui m'ont perdu souvent. J'ai sorti ta guitare pour leur dire en chanson qu'ils m'ont donné le courage de marcher droit devant. J'ai longtemps cru savoir qui je serais plus grand, que j'irais dans des bars oublier mon prénom. Mais dans mon répertoire, en lisant mes chansons, je crois que j'ai su ma foi retrouver la raison. En un instant, toujours cet espoir de t'entendre en hiver, frapper fort à ma porte pour voir tomber la neige, mais toujours cette histoire quand je regarde en arrière, celle d'un gamin dans le noir, celle de ton petit frère, mais toujours cet espoir de te courir après, de venir tard le soir raconter mes secrets, mais toujours cette histoire quand je vois mon reflet, celle d'un gamin sans toi, celle de ton petit frère.
toi, de t'entendre en hiver, frapper fort à ma porte pour voir tomber la neige. Mais toujours cette histoire, quand je regarde en arrière, celle d'un gamin dans le noir, celle de ton petit frère. Toujours cet espoir de te courir après, de venir tard le soir raconter mes secrets. Mais toujours cette histoire, quand je vois mon reflet, celle d'un gamin sans toi, celle de ton petit frère.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
Vous écoutez bien l'économie en direct sur IDFM Radio avec à mes côtés ce matin Hakim Camou, chef de projet innovation sociale de la DETS du Val d'Oise, direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Et j'ajoute fervent défenseur de l'égalité des chances. Donc Rachida Arab, PDG de Griffon Protection, aurait dû être avec nous, mais malheureusement, elle a eu des soucis familiaux. Mais bien avec nous, Saïd Skilik, PDG du groupe KLC, un groupe pluridisciplinaire spécialisé dans les métiers du BTP, et Julien Doza, directeur chez Domino RH. Alors, Saïd Skilik, on a eu le plaisir de nous rencontrer déjà deux fois. Une première fois à Nières-sur-Oise en janvier pour la pose de la première pierre du domaine de la Moissette.
Exact.
Et ensuite, au Salon Effervescence à Villers-le-Bel, vous avez été lauréat d'un trophée. Donc, bienvenue chez IDFM Radio. Et merci. Puis, bravo pour ce trophée. Saïd, je vous laisse vous parler un peu de vous, pour qu'on vous découvre.
Bien sûr. Bah, écoutez, Jacqueline, avant tout, merci pour l'accueil. Merci aussi pour le travail que vous faites pour donner de la visibilité aux différents acteurs de notre territoire.
C'est
aux
gentil.
Différents mouvements, comme l'a pu expliquer et présenter tout à l'heure Hakim. C'est très important pour notre territoire d'avoir un média revendiquant les actions. En quelques mots, Saïd Kilik, président du groupe KLC. Donc, nous sommes un groupe pluridisciplinaire spécialisé dans les métiers du bâtiment,
oui.
En commençant par le désamiantage, démolition, la construction, la revalorisation et le réemploi, et enfin la revitalisation de friches industrielles et développement immobilier. Nous comptons à ce jour plus de 200 collaborateurs.
Ah oui.
Nous intervenons à l'échelle nationale, non seulement dans le secteur privé avec des groupes hôteliers ou des investisseurs, dans le public avec des accords cadres sur 4 ans avec la région Île-de-France, le département et plein d'autres, mais aussi dans l'industriel avec des clients tels que Safran et Stellantis.
Des belles références.
Exactement. Nous sommes un groupe, donc tout à l'heure on en parlait. Je voulais aussi dire quelques mots sur Hakim parce que tout à l'heure il avait fait allusion à notre première rencontre. C'est vrai que nous, au-delà du projet, avoir un acteur comme Hakim en face de nous, surtout dans notre territoire, c'est un énorme honneur.
Mmh.
Avoir des acteurs engagés, défendant plusieurs causes justes pour le territoire, mettant en avant les entreprises, mettant en avant des projets pour faire de ce territoire un territoire meilleur de jour en jour.
Oui,
c'est
oui.
Très important pour nous aussi. En tant que groupe KLC, on a appris avec le temps la différence entre être un groupe d'un territoire et être un groupe engagé dans ce territoire.
Ah oui, 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 c'est la nuance, c'est important.
C'est une grande nuance parce que être engagé, ça va au-delà de contribuer au volet économique comme on a l'habitude d'avoir et de porter l'étiquette de certaines entreprises où c'est purement économique, financier, chiffre d'affaires. Être engagé, être engagé, ça va au-delà, c'est aussi contribuer à la vie sociale et sociétale de son territoire. Être engagé, c'est défendre toute cause juste, éthique, morale, et celui que nous a présenté Hakim en fait partie. C'est pourquoi, en tant que groupe KLC, nous sommes non seulement fiers, mais aussi honorés de faire partie d'une des entreprises pionnières mécènes de l'égalité des chances du Val d'Oise. Et nous continuerons, bien évidemment, à la hauteur de nos moyens, de défendre et de soutenir toute cause visant à faire de ce territoire un territoire meilleur de jour en jour. Notre groupe aussi accorde une grande importance dans sa stratégie. Il y a bien évidemment des investissements, mais aussi à nos actions au niveau de la création d'emplois. Nos futurs investissements sont aussi portés sur le nombre de créations d'emplois qu'on peut avoir, sur les actions en relation avec la transition écologique que peut avoir, sur l'innovation aujourd'hui. On a beaucoup investi dans le digital, en développant des applications, en recherche et développement pour trouver des solutions alternatives à l'enfouissement. Enfin, on se limite pas seulement à ce qui est fait par le système. On essaie vraiment de pousser les murs et essayer de trouver des solutions innovantes dans chaque métier qu'on entreprend.
C'est ça, vous poussez le bouchon le plus loin que vous pouvez. Je crois que vous avez pas mal de certifications RGE et puis les pratiques durables que vous mettez en œuvre. Vous venez de nous en citer quelques-unes. Votre groupe existe depuis combien de temps?
Donc ça va faire 10 ans.
10 ans.
En 2015.
Et c'est vous, Saïd, qui l'avez créé?
Oui, avec mes frères.
Très bien. Ouais. Vous avez toujours été dans ce milieu est-ce que vous êtes dans un environnement justement dont votre famille était aussi dans l'entrepreneuriat?
Moi, j'ai pas été dans le bâtiment. Je suis quelqu'un d'assez autodidacte.
Oui.
J'ai pas eu aussi la chance de faire de très grandes études.
Oui, c'est pas un problème.
Quand on a trois frères et les trois sont ingénieurs de bâtiment, me suis dit qu'il fallait se lancer dans le bâtiment. Donc j'ai sagement attendu qu'ils terminent leurs études et leur alternance chez des gros noms du secteur. Et en parallèle, on avait monté notre société. On a choisi le désamiantage parce que c'est le secteur le plus réglementaire. Le secteur le plus réglementaire dans le BTP. Et on s'est dit que autant viser haut dès le début et voir réellement si on mérite l'histoire qu'on a souhaité se créer.
Voilà. Mais peut-être que le fait, quand vous dites que vous êtes autodidacte, c'est peut-être une force parce que vous avez été le maillon indispensable pour réunir vos frères. Parce que, quand on est ingénieur, on se dit, j'ai peut-être pas besoin de me mettre à mon compte, alors que vous aviez cette envie.
Exactement. Là-dessus, c'est l'esprit d'équipe, aujourd'hui, que ça soit avec mes frères ou avec mes collaborateurs. On prend vraiment cette idée un peu d'équipe, un peu comme dans le rugby, où aujourd'hui on se dit que il y a une phrase qui fait un peu cliché, mais c'est une réalité. Tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.
C'est vrai.
Aujourd'hui, une réussite, c'est une addition, une accumulation de compétences de chacun. Moi le premier, je suis pas bon partout, j'ai des bons côtés comme des mauvais, j'ai des points positifs.
Vous avez plutôt le côté peut-être commercial.
Et un peu un peu visionnaire aussi, dans lequel j'aime bien aller un peu plus loin que ce que le marché a l'habitude de faire. Je vais avoir des collaborateurs qui sont un peu plus procéduriers.
Ça fait toute la différence.
C'est ça, exactement. Et c'est cette accumulation vraiment de compétences et de savoir qui font qu'aujourd'hui on arrive à atteindre nos objectifs et essayer de contribuer, comme on le disait tout à l'heure, non seulement dans le développement économique, mais aussi social et sociétal de notre territoire et de notre secteur.
Bien sûr. Et cependant, le BTP aujourd'hui est quand même mis à mal. C'est compliqué. Vous n'en souffrez pas trop chez KLC?
Aujourd'hui, c'est sûr qu'on a vu qu'il y avait quand même une baisse d'activité, au niveau des appels d'offres, au niveau des futurs projets. On a quelques aussi événements, que ce soit dans le privé avec la hausse des taux, soit dans le public avec les élections qui arrivent. Enfin, on est souvent perturbé. Notre secteur est souvent perturbé.
Depuis la Covid, il y a quand même eu la guerre en Ukraine, avec la hausse des matériaux. Enfin, il y a eu plusieurs.
Exactement. Il y a une phrase qui dit quand le BTP va mal, tout va mal.
C'est vrai.
Et c'est vraiment une réalité.
Et l'inverse, c'est-à-dire quand le BTP va bien, tout va bien.
Tout va bien, exactement.
Parce que moi, je reçois régulièrement.
C'est ça. Mais pour répondre à votre question, Jacqueline, nous, là-dessus, on arrive à absorber un peu, si je puis dire, cette crise. Parce que dès le début, en fait, mon objectif principal en tant que président, je l'ai vite vu que c'était d'assurer la pérennité de mon groupe.
C'est ça. C'est votre côté visionnaire.
Exactement. Et pour ça, il a vite fallu que je mette en place une stratégie de pérennisation de mon groupe. Donc, en ce qui nous concerne rapidement, elle reposait sur trois axes principaux. Le premier, c'est la diversification de clientèle, ne pas être dépendant du secteur privé ou public ou industriel, mais essayer de mixer les trois secteurs. Le deuxième, c'est la production en propre et en sous-traitance. Aujourd'hui, on produit, en fait, on sous-traite à peu près 30% de nos opérations pour pouvoir demain, en cas de baisse d'activité, d'absorber sans forcément mettre en place des campagnes de chômage ou des campagnes qui viennent aussi bouleverser aussi le raisonnement et la stratégie du groupe. Et enfin, la diversification d'activités. C'est pour ça que, comme vous l'avez présenté, on est un groupe pluridisciplinaire.
Oui, oui.
Notre groupe repose sur plusieurs activités qui sont complémentaires. On a souhaité viser sur non seulement avoir une grosse entreprise qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a préféré développer des entreprises se limitant à 20-25 millions de chiffre d'affaires et arriver à cette limite, développer des activités complémentaires.
D'accord.
Pour pouvoir pas mettre tous les mêmes œufs dans le même sac.
Oui.
Et dans, comme on le voit dans ces périodes de creux, pouvoir l'absorber le mieux possible.
Et en même temps, donc cette production en propre vous oblige à avoir une masse salariale quand même importante, alors que si vous sous-traitiez, ce serait peut-être plus light, non?
Exactement.
Vous y réfléchissez parfois?
Ouais. Si, ça nous arrive et là-dessus, on est dans des activités quand même très réglementaires, dans des activités quand même, aujourd'hui même dans la construction, nous on fait pas de construction neuve, on préfère privilégier, on s'est rencontré la revitalisation de friches industrielles d'Asnières-sur-Oise, c'est un marché qu'on a obtenu en macro lot à l'échelle du groupe, dans lequel on s'occupe de la dépollution, de la construction.
J'ai vu, oui. Vous nous avez montré, c'est un chantier important.
Exactement. Hein, ouais. Et là-dessus encore, ça prouve que le Val d'Oise est engagé dans tous les axes en revitalisant aussi les friches industrielles. Et aujourd'hui, nos activités font qu'on a besoin quand même de main d'œuvre en propre assez importante.
Oui.
Là-dessus, dû à son côté réglementaire, mais aussi c'est ça aussi qui nous permet une certaine réactivité et une certaine qualité aussi dans notre travail. Mais même dans la sous-traitance, on est valdoisien jusqu'au bout. Hein. On essaie vraiment de privilégier les acteurs quand même locaux, que ce soit au niveau de nos fournisseurs ou de nos sous-traitants, pour pouvoir aussi contribuer à l'économie locale.
Votre entreprise est située à quel endroit, Saïd?
Donc aujourd'hui, on est sur Sarcelles.
D'accord.
On a aussi une de nos entreprises sur Gonesse. Mmh. Et on construit donc notre nouveau siège social sur la commune de Puisan en France.
D'accord, très bien, très bien. Mais écoutez, je suis ravie de vous accueillir et de découvrir cette belle entreprise, enfin en tout cas ce groupe magnifique.
Merci à vous.
On marque une pause et puis on continue.
Allez.
L'interview. À
Merci.
Tout de suite.
also wanna have fun now.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio, l'économie en direct. Ce matin, nous parlons fonds de mécénat avec à mes côtés Hakim Kamouche, Saïd Skilik et Julien Doza. Alors Saïd Skilik, on a pu découvrir la genèse de votre entreprise et puis son développement, sa croissance. Aujourd'hui, vous avez décidé, alors vous en avez dit un mot, mais vous avez décidé de soutenir ce fonds de mécénat territorial pour l'égalité des chances, un projet qui est complètement inscrit dans l'ADN de votre entreprise.
Effectivement, c'est que aujourd'hui, comme on l'a évoqué tout à l'heure, en tant qu'entreprise, on n'a pas seulement des objectifs économiques. Derrière aussi, on souhaite aussi à notre niveau essayer de contribuer à des actions sociales et sociétales et défendre toute cause juste. Et la cause défendue aujourd'hui est une cause qui est en harmonie et en phase avec la mentalité et notre culture d'entreprise.
Oui. Vous-même, dans les personnes que vous employez, il y a ce type de personnes qui sont qui sont bénéficiaires du RSA ou vous allez dans cette direction, pas forcément.
Aujourd'hui, en interne, non, mais on intervient souvent pour pouvoir, comme l'avait évoqué Hakim, dans des événements, pour pouvoir aussi ouvrir les portes de nos entreprises, mm-hmm. expliquer nos métiers, pouvoir aussi faire aussi des réunions globales pour proposer un peu les différents postes qui sont à pourvoir au sein de notre groupe. Et on essaye de privilégier, bien entendu, on a beaucoup d'alternants, on est pas mal en partenariat avec des organismes d'insertion. On est pas mal aussi, en fait. Moi, je juge beaucoup, non seulement sur le savoir-faire, mais surtout dans le savoir-être.
Oui,
c'est-à-dire
oui.
qu'aujourd'hui, bien évidemment, hein, ça vaut ce que ça vaut, et c'est assez important, tous les diplômes et tout ça. Mais moi, je pense qu'une personne, elle peut ne pas avoir le savoir-faire, mais oui. si elle a le savoir-être, naturellement, elle va s'engager, elle va travailler. Et moi, l'ensemble de mes directeurs aujourd'hui, c'est des directeurs qui ont, pour la plupart, commencé au bas de l'échelle.
Oui,
c'est-à-dire
oui,
qu'aujourd'hui,
oui.
mon directeur travaux était un ancien chef de chantier. Mon directeur d'exploitation était un ancien conducteur travaux.
C'est ça, vous avez su leur donner leur chance
exactement.
Et puis ils ont évolué. Et voilà.
C'est ça, oui. parce qu'au-delà de la compétence, ce qui est important pour un groupe, je pense, c'est aussi sa culture d'entreprise et sa vision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a eu des CV avec certains profils ayant 15, 20 ans d'expérience.
Oui.
Mais si humainement, si en termes de vision, si
pas.
En termes de... Ça ne s'aligne pas avec nos objectifs. Au final, ça sera plus malheureusement un virus qu'autre chose.
Bien sûr.
Parce que on a une autre mentalité. On essaye de mettre en avant quand même le côté humain, le capital humain qui a beaucoup d'importance. Aussi l'esprit d'équipe. Tout ça, c'est des choses aujourd'hui qui font aussi notre succès dans plusieurs points.
Et votre force.
Exactement.
Ouais. Et vos frères alors, que disent-ils de cette entreprise?
Mes frères, eux, ils sont
heureux.
Ils sont heureux, ils travaillent. Donc c'est des ingénieurs de bâtiment, donc
oui.
ils ont ça dans le sang. Naturellement, des fois, avec ma vision et tout ça, j'essaye de leur proposer certains sujets, mais bon, on se complète assez bien. Voilà, exactement. Il y a des choses aujourd'hui. Tout projet commence d'un rêve. Mmh, j'ai envie de dire, c'est que aujourd'hui, si on n'a pas l'envie, si on se projette pas à travers un rêve, c'est compliqué de pouvoir avancer. Comme le disait tout à l'heure Hakim, faut être passionné pour réussir. Et aujourd'hui, c'est notre cas. On essaye en tout cas de l'être.
Et si vous y avez réfléchi, est-ce qu'il y a des projets, des actions que vous aimeriez soutenir dans le cadre du mécénat?
Là-dessus, vraiment, déjà, premièrement, nous, on s'est engagés parce qu'on doute pas que vraiment Hakim et son équipe utilisera nos fonds à sa juste valeur. Mmh, Donc ça, c'est important pour nous quand même.
Bien sûr.
Et en fonction de ça, je pense que toute cause d'aujourd'hui qui a été citée sont en phase avec notre façon de voir les choses. Donc naturellement, si plus tard Hakim souhaite nous partager s'il y a un choix à faire sur différents engagements, on serait ravis de pouvoir contribuer et donner notre pensée à ce sujet.
Très bien. Saïd Skilic, comme je l'ai dit en préambule, nous sommes rencontrés aussi au Salon Effervescence. Vous avez eu un trophée. Parlez-nous de ce trophée et de pourquoi vous avez eu ce trophée.
Effectivement, donc on a eu la chance d'avoir donc le trophée Made in 95, qui aujourd'hui Made in 95, une initiative lancée par la CCI, a quand même c'est une reconnaissance assez importante.
Oui.
Voilà, c'est un vrai label, c'est un drapeau que les entrepreneurs de notre territoire sont fiers de porter. Donc avec la CCI et Monsieur Pierre Cuchely,
c'est lui qui en est, oui, absolument.
Voilà. Donc ça permet aussi de montrer haut et fort qu'on est fiers de faire partie de ce département en tant qu'entreprise. Donc ce trophée, on l'a eu, donc elle a été jugée par plusieurs aspects. Donc nos actions locaux, notamment au niveau des actions professionnelles, mais aussi sociales et sociétales, les embauches qu'on fait dans le territoire, tout notre engagement dans le territoire du Val-d'Oise. Et là-dessus, nous, on l'a eu en partie dû à nos actions, mais aussi aux embauches, aux différents partenariats et toute autre action dans le territoire.
Très bien, très bien. Parce que il m'avait semblé aussi que l'accent avait été mis justement sur cette une de vos actions au niveau du développement durable et votre engagement aussi pour les dépôts sauvages, non?
Ça,
effectivement. Il y avait une relation, je crois.
Ouais, effectivement, là-dessus, parce que bon, on en avait parlé tout à l'heure, mais on a plusieurs projets à venir au sein du groupe.
Oui.
Notamment dans le secteur donc de la revalorisation de déchets et le recyclage.
C'est ça.
Donc aujourd'hui, bon, rapidement, on aura l'occasion d'en parler plus en détail, mais il faut savoir que pratiquement 35% des déchets issus des centres de recyclage sont destinés à être enfouis. Donc nous, aujourd'hui, on a pour projet prochainement de construire la première usine de combustible solide de recyclage du territoire. Donc l'objectif de cette usine, c'est de récupérer tous les déchets qui sont destinés à être enfouis pour pouvoir les retravailler, les transformer en matière et être des énergies alternatives aux énergies fossiles qu'on peut utiliser dans des process industriels, dans des réseaux urbains de chaleur et plein d'autres.
Ça, c'est une de vos visions, alors.
Exactement. Exactement.
Wow. Oui, parce que je disais hors antenne, lorsque vous avez eu ce trophée, Monsieur Philippe Court, le préfet du Val-d'Oise, j'ai compris qu'il il était assez satisfait de cette il avait l'air satisfait en tout cas de cette initiative très bien. Donc on n'a pas fini de parler de vous, Saïd, j'ai l'impression. Merci infiniment. Est-ce que professionnellement vous auriez des besoins à exprimer si vous deviez en exprimer
aujourd'hui? On va avoir des besoins, comme on l'a évoqué. Il y a plusieurs projets dans le pipe qui sont en cours de développement, mais qu'on communiquera une fois avoir bien avancé pour être sûr des différents besoins. Donc parmi ceux-là, ça va être bien entendu de la création d'emplois. Ça va être aussi des partenariats locaux avec des fournisseurs et des entreprises. Prochainement, on en fera part.
Très bien. Merci infiniment pour vos éclairages sur votre activité. Puis surtout, merci de votre soutien en contribuant à ce fonds de mécénat. Merci infiniment.
Merci à vous.
C'est l'heure d'une nouvelle pause et on se retrouve juste après.
J'ai toujours préféré aux voisins les voisines, dont les ombres chinoises ondulent sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime où glissent en or et noir tes bas sur tes mollets. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas, je maudis les techniciens dont les stores vénitiens découpent dans tranches la moindre paire venge déjà pliée. J'ai toujours préféré aux voisins et voisines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines qui sèchent leurs dentelles au vent sur les balcons. C'est un peu toi qui danse quand danse la mousseline, invité au grand bal de tes slips en côté. bâton de ma fenêtre en face. Je caresse le plexiglas, je maudis les méninges. Inventeur du sèche-linge, plus de lèche. Vitrine à ses caches, poitrine que tu séchais. Armoires, en quête d'une décision. Dans une heure environ, tu choisiras le jean. Tu l'enfileras bien sûr dans mon champ de vision. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas. Concurrence déloyale de ton chauffage central. Une pluie et dans ce interrompt ma transe. Puis des épais rideaux, et c'est la goutte d'eau. Un ravalement de façade me cache ta palissade. Une maison de retraite construite devant ma fenêtre. Sur un fil par centaines sèche d'immenses gaines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines.
FM, 98 FM.
C'était Les Voisins par Renan Luce. Avant de continuer donc cette émission, et si vous nous rejoignez, c'est l'économie en direct consacrée ce matin à un fonds de mécénat territorial pour l'égalité des chances. Allez, je suis toujours en compagnie de Hakim Camouche, chef de projet innovation sociale de la DETS du Val d'Oise. Saïd Skilic, PDG du groupe KLC, et Julien Doza, directeur chez Domino RH. Julien Doza, merci d'être parmi nous ce matin.
Merci à vous.
Bien, je vous laisse partager avec nous votre expérience aussi dans votre parcours, si vous voulez nous en dire quelques mots.
Oui, tout à fait. Alors, du coup, moi, je travaille pour la société Domino RH, pour le groupe Domino RH. Donc, Domino RH, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'intérim.
Oui.
On fait aussi de l'intérim d'insertion, on va en parler tout à l'heure parce que ça, il y a un lien quand même assez fort avec le fonds de mécénat.
Oui.
Et puis aussi, on fait du recrutement en CDI type cabinet de recrutement. Alors, pour vous donner, voilà, quelques mots et vous présenter un petit peu notre groupe. Donc aujourd'hui, Domino RH, on a un groupe français, dont le siège est basé à Lyon. Donc on est, peut-être que demain il se décalera sur le Val d'Oise, mais pour l'instant, on est encore sur Lyon. Mais parce qu'on adore le Val d'Oise. Et donc on a un groupe qui est présent partout en France. Aujourd'hui, on a 180 agences de proximité.
Ah oui.
Donc vraiment, on est vraiment au plus proche des besoins locaux, parce que c'est quelque chose qui est important pour nous et aussi par rapport aux besoins des territoires et des bassins d'emploi. Donc on a 180 agences partout en France, mais on est aussi présent dans 9 pays.
Ah oui.
Et on a un groupe
international, donc.
C'est ça, tout à fait. Voilà, on avait une volonté aussi d'exporter notre savoir-faire aussi à l'international, et aujourd'hui on est présent voilà au sein de ces 9 pays. Et puis on a un groupe qui existe aussi depuis quand même déjà pas mal de temps, parce qu'on vient de fêter nos 25 ans.
D'accord.
Voilà, donc on a un groupe solide en plein développement. Et on encourage voilà toutes les personnes qui souhaitent même rejoindre notre groupe. Aujourd'hui, on recrute en permanence sur ce type de poste.
D'accord. C'est la création d'une seule personne, ce groupe Domino RH.
Oui, tout à fait. Hein. C'est vraiment une initiative. Et je passe un petit coucou à notre président Loïc Labouche. Vraiment, c'est une initiative voilà personnelle de se dire tiens, ben moi, à un moment donné, je vais me lancer, je vais créer mon entreprise. avec aussi des facteurs de différenciation, parce que c'est vrai que aujourd'hui l'intérim, l'insertion, le recrutement, ben on parle beaucoup de valeurs humaines, et je pense que c'était quelque chose, voilà, et c'est toujours quelque chose d'important pour notre président et pour le groupe, parce qu'en plus c'est vraiment notre baseline, oui. C'est Domino RH valeurs humaines, donc vraiment on insiste beaucoup là-dessus. Notre président, voilà, c'est quelqu'un de très humain, et il a souhaité, voilà, donner toute cette dynamique humaine aussi au sein du groupe.
Dans cette direction.
C'est ça, et c'est vraiment des valeurs fortes qui sont partagées par tous.
Et qui, de toute évidence, lui ont réussi, puisque voilà, c'est un groupe important aujourd'hui.
C'est ça, tout à fait. Donc, c'est un groupe qui se développe, comme je vous dis, qui se développe vraiment assez fortement là depuis 10 ans. Donc, on espère approcher le milliard bientôt, je pense.
Ah, d'accord, très bien.
C'est une possibilité, en tout cas, c'est ce que je nous souhaite et ce que je
vous
souhaite aussi.
Bien sûr, bien sûr. Et donc vous-même, Julien Doza, vous êtes arrivé dans ce groupe il y a combien de temps ?
Alors moi, je suis arrivé il y a un peu moins d'un an, oui, au sein du groupe. Là aussi, on faisait de l'intérim, du recrutement. On faisait aussi déjà un peu d'intérim d'insertion. Mais vraiment, ça c'était quelque chose aussi d'important qui rentre dans ces valeurs-là. Et moi j'étais recruté pour ça, pour vraiment voilà développer l'intérim d'insertion. Alors l'intérim d'insertion, un petit peu, en quoi ça consiste?
Oui, expliquez-nous.
Et en quoi consiste mon poste? En fait, aujourd'hui, ma mission elle est assez simple, c'est de permettre à des personnes donc sans emploi de retrouver un emploi. Donc ces personnes-là, bien souvent, elles sont sans qualification, ou elles ont vraiment un niveau de qualification quand même assez faible, oui. Et c'est de leur permettre de retrouver un emploi durable. D'accord, cette notion de durabilité, elle est importante, et on va mettre en place un parcours d'accompagnement, c'est-à-dire que c'est comme de l'intérim classique, sauf qu'en plus de l'intérim classique, on va les accompagner à la fois sur la dimension sociale, mais aussi sur la dimension professionnelle, pour faire en sorte de stabiliser leur situation, et leur permettre, voilà, demain d'avoir un emploi, voilà, vraiment plus durable. Bien souvent, ils savent pas forcément ce qu'ils souhaitent faire. C'est-à-dire que là, on va leur donner.
Oui, parce que ce sont des gens qui sont sans emploi depuis plusieurs mois, plusieurs, avec un délai un peu long.
C'est ça. On va avoir deux types de publics. On va avoir des publics qui sont sans emploi depuis pas mal de mois, voire d'années, hein, type bénéficiaire du RSA,
c'est
par
ça,
exemple.
Oui, oui.
Mais aussi, on peut avoir des personnes comme des jeunes qui souhaitent s'intégrer sur le marché du travail et qui n'ont pas forcément les qualifications nécessaires pour accéder au poste, l'expérience. Et puis après, on va aussi avoir une autre typologie de publics, par exemple des publics type réfugiés. On va permettre, voilà, à toutes ces personnes qui viennent d'arriver en France, de retrouver un emploi. Et je vous dis, sur l'accompagnement aussi, on va les accompagner aussi beaucoup sur l'apprentissage de la langue française, parce que c'est vrai que c'est aussi important,
c'est aussi
de se dire, ils ont déjà une compétence qu'ils ont acquise dans leur pays. Souvent, sur la partie maîtrise de la langue française, c'est un petit peu plus faible. Et l'idée, voilà, c'est de les accompagner aussi dans cette dimension-là.
Ça veut dire que vous avez un agrément formation?
Alors nous, on n'a pas un agrément formation, parce que nous, on passe beaucoup aussi avec d'autres.
Ah oui, c'est ça.
C'est ça, c'est-à-dire que nous, on va déléguer, en fait.
Vous êtes en partenariat.
C'est ça, c'est ça. C'est qu'on va être en partenariat avec des organismes de formation qui vont les aider dans leur apprentissage du français. Et on travaille notamment avec notre OPCO sur ces sujets-là, qui s'appelle ACTO.
Oui.
Pour vraiment, voilà, mettre en place des programmes de formation spécifiques. Et généralement, on intègre ces dimensions du français dans une action professionnelle. Donc c'est plutôt du français à visée professionnelle, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des contrats, ce que nous on appelle dans le jargon CPI ou CDPI, c'est des contrats pro ou des contrats d'insertion pour apprendre un métier, et en même temps on développe aussi l'apprentissage de la langue.
Ça veut dire aussi que vous avez une vraie demande dans les entreprises, ont des demandes pour trouver ce genre de salariés.
Oui, c'est ça, hein, tout à fait. Hein. Aujourd'hui, on a des demandes assez fortes. Pour vous donner aussi une idée en termes d'emploi, aujourd'hui, on permet à 25 000 personnes en France au quotidien d'avoir un emploi. Donc, on est quand même sur des volumes qui sont importants, et on espère en faire bénéficier au maximum aussi pour les habitants du Val d'Oise, parce que c'est aussi important, parce qu'on parle du 95, donc c'est aussi important de leur permettre d'eux, parce qu'on est sur un territoire qui est dynamique. Mais comme toujours, il y a aussi l'offre et la demande, et comment on arrive à faire rencontrer à un moment donné le besoin avec l'entreprise. C'est pas toujours facile. On n'a pas toujours les codes, les réseaux, etc. pour y accéder. Donc nous, on est un facilitant, je veux dire, entre les deux.
Et c'est donc, alors il faut garder à l'esprit que vous êtes quand même une entreprise d'intérim, c'est-à-dire que vous permettez ces formations à ces personnes pour qu'elles trouvent un emploi, mais en intérim toujours.
C'est ça, toujours en intérim.
Est-ce qu'à un moment donné, vous suivez les gens pour savoir si ça se transforme en CDI ou ça ne fait pas partie de vos prérogatives?
Alors, tout à fait, nous, ça fait vraiment partie de nos prérogatives. Donc, comme je vous le disais, on fait à la fois de l'intérim, on va dire classique, mais il y a aussi tout ce parcours d'accompagnement.
Oui.
Et dans le cadre de ce parcours d'accompagnement, l'idée, c'est vraiment d'accéder à l'emploi durable. Donc, comment on va y accéder? C'est par de la formation, bien souvent, de la montée en compétences. Et je remercie les entreprises, et notamment Saïd sur le sujet, parce qu'il fait un gros boulot aussi d'accompagnement, parce que c'est aussi grâce, j'allais dire, à nos clients et aux entreprises aussi, qui jouent le jeu et qui font monter en compétences. Parce que surtout dans le bâtiment, c'est, j'allais dire, c'est un peu le cœur de l'activité. C'est-à-dire que, il nous l'a expliqué, juste avant mon intervention, où c'est vrai que cette dimension du tutorat, du partage, de la montée en compétences, de la valorisation, voilà, dans le bâtiment, l'avantage, c'est que on peut démarrer très très bas, vous pouvez commencer manœuvre et finir demain chef de chantier, c'est possible, il y a encore des perspectives qui sont quand même assez fortes. Je crois que c'est quasiment une des seules activités, alors je sais pas ce que t'en pensais, mais je pense que c'est une des seules activités qui permet à la personne de partir du bas et d'arriver en haut, ce qui n'est pas toujours le cas.
C'est vrai, je te rejoins là-dessus.
Je pense que dans l'industrie, c'est fréquent, c'est-à-dire que on peut partir de rien et puis si on est bon, enfin je veux dire si on est un bon salarié, on est sérieux, enfin voilà, il y a plein de critères, mais on peut monter très vite hein, et très haut.
Je rebondis sur ce que Julien disait, c'est que notre secteur, c'est quand même un secteur dans lequel, on en parlait tout à l'heure, le savoir-être a beaucoup d'importance. C'est-à-dire, contrairement à d'autres secteurs où là, c'est vraiment plus réglementé dans la finance, par exemple. Aujourd'hui, vous avez beau avoir des compétences très importantes, c'est les diplômes qui permettent, ou dans le juridique, ou dans plusieurs autres secteurs, c'est vraiment le côté théorique aussi et de diplômes qui jouent beaucoup. Dans notre secteur, vraiment... Tout à l'heure, je l'ai cité certains exemples. Julien aussi est confronté toute l'année. On peut vraiment avoir des gens au bas de l'échelle qui deviennent vraiment des hauts dirigeants et des personnes clés de chaque organisation.
Oui, quand je disais l'industrie, je pensais plutôt les artisans, des gens qui fabriquent quelque chose. C'est sûr que dans la finance, c'est certainement beaucoup plus limité, c'est clair.
C'est plus difficile.
Oui, je vous en prie, Julien.
Moi, si vous voulez, aujourd'hui, ce qu'on peut dire et nous, ce qu'on fait, Domino RH sur ces sujets, c'est vraiment de permettre à toutes ces personnes de trouver un emploi. Donc, je vais dire un petit mot là-dessus, mais on pourra dire aussi tout à l'heure. Mais moi, j'invite en tout cas tous nos auditeurs à postuler. Voilà, vous allez sur le site domino-rh.com où vous avez des milliers d'offres d'emploi disponibles. Allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous contacter sur LinkedIn. Aujourd'hui, je pense que tous les responsables d'agence, les directeurs régionaux et moi-même, on est sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Si vous cherchez du boulot, nous, on peut vous trouver du boulot. D'accord?
Comme
vous disiez, voilà, ce qui est important, aujourd'hui, on est plutôt sur du savoir-être. C'est-à-dire, vous avez envie de bosser. Nous, on peut vous permettre de. D'accord? Parce qu'un métier, ça s'apprend. Un métier, ça s'apprend. On peut vous donner, voilà, les compétences, etc. Mais néanmoins, il faut avoir envie. Donc, si vous avez envie, voilà. Après, nous, on déroule et on vous accompagne sur le sujet.
C'est vous qui prenez en charge.
C'est ça.
Dans le Val d'Oise, vous êtes situé à quel endroit?
Alors, aujourd'hui, nous, on n'a pas de présence physique sur le Val d'Oise. On est en cours d'implantation sur Goussainville.
Oui.
Donc, c'est une ville aussi assez dynamique. Donc, aujourd'hui, on souhaiterait...
Avec Abdelaziz Hamida, c'est clair que ça bouge. Hein.
C'est ça. Donc, on a échangé déjà avec lui sur le sujet. Donc, on est en cours de trouver un local qui nous permettrait de s'implanter assez rapidement sur la commune. Voilà. Donc aujourd'hui, on a hâte de rejoindre ce département dynamique. Voilà. Là aujourd'hui, on le fait de façon un peu indirecte parce que physiquement, on n'est pas présent, mais néanmoins, on s'appuie aussi auprès de différents acteurs qui sont nos partenaires. Hein. Donc, je pourrais citer par exemple France Travail.
Oui.
Et je salue les deux Stéphanie, elles vont se reconnaître sur le sujet. Mais on va travailler aussi avec les missions locales. On va travailler avec les plis. Là aussi, je fais un petit coucou aux plis d'Argenteuil-Beson et à Karine, sa directrice, avec qui on collabore régulièrement. Mais aussi, on va travailler avec, par exemple, les apprentis d'Auteuil, ouais. avec les clubs FAS, avec la Croix-Rouge, etc. Donc, nous, aujourd'hui, voilà, on s'appuie sur ces acteurs locaux et on va chez eux faire directement voilà, des job dating, des entretiens, etc. Voilà, donc, on s'appuie voilà, sur leur implantation. Pour être au plus proche du besoin, parce que comme on le disait tout à l'heure et via aussi le fonds de mécénat, ce qui est important, on en parlait beaucoup, c'est le local. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, on essaie vraiment d'être au plus proche de la demande, parce qu'il faut être voilà proche, j'ai l'air de nos clients. Il faut aussi être proche des bassins d'emploi. C'est aussi important. Alors après, l'idée, c'est aussi que les personnes puissent aller d'une ville à une autre. Hein. C'est pas vraiment de se dire tiens, j'habite dans une ville et je travaille dans la ville. Mais l'idée, c'est de se dire voilà, vous pouvez aussi vous déplacer sur le sujet. Mais c'est vrai, ce qui est important, c'est vraiment d'être au niveau local. Et c'est pour ça que nos agences, c'est vraiment des agences de proximité pour être au plus proche
de vos clients, puisque ce sont vos clients. Mais vous-même, Julien, donc on sent que vous êtes complètement investi hein, par cette mission. Vous étiez déjà dans ce domaine de l'intérim avant de rejoindre Domino RH.
Oui, hein, tout à fait. Moi, avant de rejoindre Domino RH, j'étais dans un plus petit groupe d'intérim. Donc, j'étais déjà un peu dans ce milieu. Mais si vous voulez, moi, toute ma carrière, elle a été un peu le fil conducteur de ma carrière. C'était vraiment de se dire, aujourd'hui, est-ce que je peux apporter quelque chose à l'autre ?
C'est ça.
Je pense qu'il y avait une dimension
s'occuper de l'autre.
C'est ça, s'occuper de l'autre, cette dimension humaine aussi qui était importante. Moi, c'est vrai que personnellement, voilà, je viens d'une famille, j'allais dire, modeste, j'ai pas forcément le réseau, etc. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus simple. Parce que je me suis donné les moyens, ça n'a pas toujours été facile.
C'est ça, oui, vous avez fait ce qu'il fallait pour.
C'est ça, mais maintenant, c'est vraiment comment on peut transmettre.
C'est ça, voilà, vous avez reçu, vous avez envie de redonner.
C'est ça, tout à fait.
Très bien.
Je pense que j'ai reçu par beaucoup de personnes et je les en remercie encore. Et c'est grâce à eux que je suis devenu plus grand. Et l'idée aujourd'hui, c'est comment moi aussi je peux apporter ma pierre à l'édifice. Voilà, c'est un métier de conviction, hein, quoi. J'allais dire, aujourd'hui, vous ne faites pas de l'intérim d'insertion si vous n'êtes pas convaincu et si vous n'êtes pas animé par cette dimension. Et je remercie encore aussi Hakim sur ces sujets parce que voilà, on échange souvent sur cette dimension-là. Et pour nous, c'était important d'intégrer voilà, ce fonds de mécénat.
Oui, c'est un petit peu la question que j'allais... Enfin, pas la question, j'allais dire que rejoindre ce fonds de mécénat, c'était une évidence.
C'est ça,
tellement vous êtes engagé dans cette direction.
C'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, en tant qu'entreprise, on a... voilà des droits, des devoirs, et je pense que voilà pour nous c'était important, hein, comme le disait Saïd, là-dessus, c'est de se dire voilà on est une entreprise et on peut aussi s'engager pour notre territoire. Je pense que c'est aussi important sur ces sujets-là dans un environnement aujourd'hui économique qui peut être un petit peu compliqué. On voit que le chômage augmente et malheureusement j'ai bien peur qu'il risque d'augmenter encore un petit peu plus fortement. Donc l'idée, c'est de se dire voilà, qu'est-ce que nous on peut faire en tant qu'entreprise pour aider voilà toutes ces personnes-là à retrouver un emploi et créer une dynamique en local. Et je remercie voilà encore Hakim sur ces sujets. Je pense que voilà le fonds de mécénat pour nous c'était vraiment une évidence. Et aujourd'hui voilà on a parlé de ces différentes choses, ces outils qu'on peut mettre en place, cette mise en valeur, mais c'est surtout voilà développer ces initiatives locales
pour faire en sorte
que derrière on puisse permettre d'amener ces nouveaux projets, parce que aujourd'hui voilà tout le monde court un petit peu auprès
des financements. Oui, c'est ça. Vous êtes en fait vous allez être en parfaite adéquation hein, avec le fonds de mécénat parce que c'est tous les deux en tout cas Saïd et vous êtes parfaitement dans la vais réutiliser ce mot dans l'ADN hein, du fonds de mécénat hein, complètement. Enfin, je pense que Hakim, vous avez trouvé deux belles pépites aussi hein, pour ce fonds de mécénat.
Je confirme, tout à fait. C'est là, clair. On a entouré de bonnes ondes là ce matin. C'est pas
oui, complètement. Merci infiniment, Julien Doza, et puis bravo à votre groupe hein, Domino RH pour tout ce qu'il fait en faveur de la diversité, de l'inclusion.
Merci à vous en tout cas pour votre invitation.
Bah, écoutez, je vous reçois tous les trois quand vous voulez à nouveau parce que ce sont de très beaux projets. Voilà, merci. on va arriver à la fin de cette émission. Peut-être qu'on fait une pause, Francky, avant, et puis je vous donne un mot de conclusion. Enfin, c'est vous qui allez me donner un mot de conclusion après cette pause. À tout de suite.
IDFM Radio, 98 FM.
C'est la fin de l'économie en direct sur IDFM Radio, une émission consacrée aujourd'hui à un fonds de mécénat territorial en présence de Hakim Kamouche, Saïd Skilik et Julien Doza. Et pour répondre à la tradition de l'émission, je leur donne la parole pour un mot de conclusion. Donc Julien Doza, c'est vous qui démarrez ce mot de conclusion.
Alors, pour conclure, pour notre part, en tout cas, voilà, encore merci pour cette invitation. Et surtout, voilà, moi, je pense que Hakim va le dire et mes collègues aussi, là-dessus, c'est, voilà, n'hésitez pas, vous êtes une entreprise, rejoignez-nous, on a vraiment besoin de vous. Voilà, allez-y. Cet argent, il sera bien utilisé parce qu'on connaît la rigueur d'Hakim sur les projets et son investissement. Donc, voilà, moi, si j'ai un mot à dire, aujourd'hui, voilà, on est sur un département qui est dynamique. Il y a plein de belles choses, il y a des très belles initiatives. Donc, allez-y, rejoignez-nous en tant que mécène. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas voilà à rejoindre Hakim et même vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn et moi aussi je me ferai la joie d'être l'ambassadeur de ce fonds.
Oui, on rappelle que donc si des auditeurs auditrices sont en recherche d'emploi, quel que soit leur statut, ils peuvent vous contacter Domino Société Domino RH.
C'est ça, tout à fait. Donc ils peuvent aller directement aussi sur le site domino-RH.com.
Très bien. Bah écoutez, c'est des informations qui se retrouveront dans le podcast. Donc merci beaucoup Julien Doza. Merci à vous. Saïd Skulik, un mot de conclusion également pour vous.
Écoutez, avant tout, encore merci pour l'accueil et de nous avoir accueillis aujourd'hui. Effectivement, donc nous on est très honorés et surtout fiers de faire partie de ce fonds et en défendant des causes pour le bien de chacun. J'invite aussi, comme le dit Julien, à toutes les entreprises de notre territoire de faire partie de cette belle aventure, une aventure ayant tout son sens, dans lequel nos fonds seront vraiment utilisés à leur juste valeur,
à bon escient, oui.
Pour défendre des causes ayant tout leur sens. Tout à l'heure, on a parlé un peu, mais Hakim peut-être détaillera tout ça. Et encore une fois, si jamais il y a des entreprises qui ont des questions, on reste à leur disposition pour pouvoir aussi leur partager aussi notre façon de voir les choses en tant qu'entrepreneur. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on a tendance à mieux se comprendre sur différents sujets.
Oui, absolument. Oui, il y a un langage commun.
C'est ça, exactement. Il y a un langage commun. Et là-dessus, on reste en tout cas à leur disposition pour leur faire part de notre pensée pour cette action.
Pour les convaincre.
Exactement.
Merci infiniment. Merci, Savit, et pour cet échange inspirant, puis votre engagement au service de ce fonds. Hakim Kamouche, le mot de la fin est pour vous.
Oui. Je voulais juste rappeler notre 7e édition au Mata Boîte.
Oui.
Le 19 juin 2025, donc chez KLC, donc à Sarcelles.
Oui.
Donc une journée organisée avec l'OFI, France Travail, Cap Emploi, le réseau des missions locales, ABC Formation, le réseau des Greta, l'APEC, Coalia et l'association créative. Donc il y a du monde derrière dans l'organisation.
Il y a du monde, oui.
Absolument.
Il faudra me donner la liste pour que je puisse le mettre dans ma publication.
Tout à fait, absolument. Ouais. Donc comme l'a dit Julien et Saïd, avec ce fonds de mécénat, on a passé un cap décisif, j'allais dire, dans l'engagement, dans la diversité des engagements possibles. C'est ce qu'on a expliqué depuis là tout à l'heure. C'est ce fonds d'investissement, c'est vraiment un investissement dans le capital humain.
C'est
la diversité des richesses. La première richesse d'une entreprise, c'est son capital humain, et c'est aussi la richesse des territoires. Il y a une diversité qu'il faut valoriser, qu'il faut accompagner, qu'il faut conseiller, c'est ce qu'on a dit. Et donc là, on a créé un cercle vertueux où l'égalité des chances devient une valeur, un avantage compétitif entre une entreprise qui est engagée et une qui ne l'est pas. Et ben, ça fait la différence, et ça fait notamment la différence pour accéder à certains marchés. Donc voilà, on est fiers, on est très très fiers collectivement, et j'invite vraiment toutes les entreprises, et j'insiste, toute taille et de tout secteur d'activité, artisans, grands groupes, venez nous rejoindre et devenez pionniers et ambassadeurs de ce fonds de mécénat territorial pour l'égalité des chances, unique sur le territoire national.
Merci infiniment Hakim Kamouche. Alors moi je voudrais dire que ce fonds de mécénat territorial pour l'égalité des chances qui ne pourrait exister sans votre initiative, l'initiative de quelqu'un comme vous, mais aussi le soutien de mécènes engagés comme vous, Saïd et puis Julien. Merci. Et puis votre dévouement montre qu'ensemble nous pouvons faire une réelle différence. Merci à tous pour cette belle initiative et le soutien continue. Merci.
Merci Jacqueline.
Merci.
Voilà, notre émission est terminée. Retrouvez son podcast sur le site idfm98.fr. Et si cette émission vous a plu, eh bien n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci Francky pour la technique. Merci à vous tous qui nous écoutez chaque matin. Je fais un petit coucou à notre stagiaire Elisa qui a pris des photos. Merci Elisa. Et moi, je vous dis à mardi, 9h30, pour un nouveau numéro de l'économie en direct avec encore de nombreux invités. Belle journée et bon week-end.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Bonjour, retrouvez-nous sur IDFM Radio tous les vendredis de 18h à 19h avec Toute la culture que j'aime.
Toute la culture que j'aime, c'est votre rendez-vous avec Marie-Laure et Agnès en alternance le vendredi de 18h à 19h. Nous partagerons nos coups de cœur,
théâtre, littérature, musique, sorties.
Toute la culture que j'aime, c'est le vendredi de 18h à 19h sur IDFM Radio.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve tous les samedis et les dimanches entre 11h et midi sur les ondes de IDFM Radio.
Balade musicale avec Christophe Gravereau sur IDFM Radio.
Bonjour à tous, c'est Laetitia et Myriam sur IDFM Radio. On vous donne rendez-vous pour l'émission Femmes en Lumière tous les mardis à 18h.
Une émission dédiée aux femmes inspirantes et à leur parcours, à retrouver tous les mardis donc de 18h à 18h30. L'occasion de mettre sous les projecteurs les femmes de notre région et d'ailleurs.
À très vite sur IDFM Radio.
Depuis 1994, vous pouvez entendre sur IDFM Radio l'émission Country and Souvenirs avec Patrick Mullis. Alors n'hésitez pas. Restez branchés le dimanche soir de 19h à 21h pour 2 heures de country music et chaque semaine, vous pouvez gagner un album en envoyant un message à countryidfm@gmail.com. Bonne semaine à tous et bonne écoute surtout. À bientôt.
Retrouvez-moi, Benoît, tous les 2e et 4e dimanches du mois de 23h à minuit pour Grabuge, l'émission métal et musique extrême. Partage ma passion, la musique métal. Rendez-vous des métalleux insomniaques de 23h à minuit, les 2e et 4e dimanches du mois. Grabuge pour le plaisir et bien finir la semaine et dégourdir vos oreilles. Grabuge, tous les 2e et 4e dimanches du mois sur IDFM Radio.
Bonjour à tous, c'est Mehdi. Je vous donne rendez-vous tous les dimanches matins entre 6h30 et 8h pour la matinale du week-end. Au programme de votre réveil, votre agenda du dimanche, notre séquence souvenir avec un tube du top 50, la BO d'un film culte et un cocktail de vos plus belles chansons.
Et quand j'appelle ce soir,
ne manquez pas ce rendez-vous musical du dimanche matin entre 6h30 et 8h sur IDFM Radio.
J'ai